Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour au 9 sur les ondes de CFAQ 88.3 pour parler de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. On accueille ce matin la directrice de l'organisme, Mme J. Gagné. Bonjour, Mme Gagné.
Oui, bonjour, bon matin.
Alors, on vous reçoit puisque au début du mois d'octobre, vous avez publié « Formation continue en enseignement supérieur des parcours de réussite étudiante ». C'est un nouveau dossier. Voilà, comme je le disais, que vous avez publié le 1er octobre dernier. Pouvez-vous nous donner un aperçu des principales conclusions de ce dossier-là?
Oui, bien, nous, en fait, on est un observatoire de mobilisation de connaissances. Donc, on essaie de donner les outils les plus concrets possibles pour les jeunes dans les milieux collégiaux et universitaires pour soutenir le mieux possible les étudiants et les étudiantes. Donc, on publie, comme vous l'avez dit, un dossier thématique par année, cette année sur la formation continue. Puis l'objectif, donc, on avait en choisissant cette thématique-là puis en publiant le dossier, c'était vraiment de rendre la formation continue, de faire un état de la situation de la formation continue. Qu'est-ce que ça veut dire, la formation continue au Québec? Qu'est-ce que ça comprend? Puis en particulier, la formation continue en enseignement supérieur. Donc, c'est quoi le rôle des cégeps et des universités pour donner de la formation continue aux gens? Et à quoi ça sert? Donc, c'est vraiment un état de la situation. Donc, ce dont on s'est rendu compte en développant ce dossier-là avec tout plein de partenaires des milieux, ben c'est que le milieu de la formation continue est assez éclaté au Québec. Hein. Il y en a dans les cégeps, il y en a, je le disais, il y en a dans les universités. Il y a plusieurs des acteurs, des activités qui vont faire un peu de type. Donc, on a essayé de faire ce portrait-là pour avoir une meilleure idée de qui est impliqué. Puis ensuite, de faire un portrait aussi de qui sont les gens qui font de la formation continue. Ce portrait-là est différent de formation régulière, par exemple. Bien, c'est un autre de nos constats. C'est assez difficile d'avoir un profil particulier, c'est un profil spécifique là, ou précis, puisqu'il y a moins de données sur les gens qui sont en formation. Mais on sait quand même que ce sont des profils qui on se rend compte avec la recherche que la formation continue, c'est une voie d'accès privilégiée pour plusieurs types de populations moins traditionnelles qui vont moins aller vers l'enseignement supérieur. Donc, c'est ça qui nous intéressait aussi là-dedans, c'est de voir, pour nous, c'était une porte d'accès, la formation continue, c'est une porte d'accès vers l'enseignement supérieur pour plusieurs types de populations. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le succès justement de ces personnes-là et leur donner une meilleure accessibilité aux formations. Donc, c'est un peu à quoi a servi l'élaboration de notre dossier.
Mm-hmm. Je sais pas si vous êtes en déplacement. On vous perd un petit peu au bout de la ligne, mais on vous comprend bien quand même. Comment vous diriez que l'organisme définit la formation continue? Pourquoi est-ce que c'est perçu comme une réponse aux défis contemporains, par exemple?
Oui, mais la formation continue, c'est évidemment...
Madame Gagné? Est-ce que vous m'entendez toujours? Bon, alors je crois qu'on a perdu Madame Gagné. Bon, ça semble vrai. Oui? Bon, ça semble être... on semble avoir perdu la ligne. On va tenter de la rétablir. On va faire une courte pause et on va tenter de reparler avec Mme Gagné. Restez branchés sur les ondes de CFAQ 88.3. On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. On a rétabli la communication avec Mme Gagné. Vous êtes toujours là?
Oui, je suis là, toutes mes excuses.
Bon, il n'y a pas de problème. Bon, ça sonne un peu mieux, effectivement.
Super.
Donc, comme on le disait juste avant, bon, c'est ça, la formation continue, c'est pour répondre à des défis contemporains comme la crise climatique, la désinformation, etc.
Absolument.
Comment vous diriez que ça se reflète dans le dossier que vous avez concocté?
Oui, Je vous demandais un peu de répondre à la question de la définition de la formation continue, comment on la définissait. Donc, il y a plusieurs définitions, mais nous, on a décidé d'embrasser, je dirais, la définition la plus large, qui est une conception de la formation continue qui s'explique par un peu le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, la formation continue peut être définie comme l'ensemble des projets éducatifs de la population adulte. Donc, ça veut dire les personnes qui sont considérées comme, donc, non dans la formation régulière, là, où on fait primaire, secondaire, cégep, université, mais les gens qui ont un peu quitté la formation régulière puis qui reviennent par la suite en enseignement supérieur. Donc, ça implique toutes sortes de projets éducatifs très larges. Donc, ça va de la requalification à un changement de voie, mais ça renvoie aussi à un certain nombre de projets éducatifs qui ne sont pas nécessairement directement en lien avec l'emploi, mais aussi qui ont des objectifs, par exemple, de développement personnel ou de développement social. Donc, c'est assez varié, puis donc ça implique une diversité des profils aussi des gens qui travaillent en formation continue. Donc, ce que nous montre, entre autres, la recherche, c'est que tout ce qui est programme court, par exemple, du premier cycle universitaire, les gens sont évidemment plus âgés que dans la formation régulière. Donc, trois quarts des personnes inscrites en formation continue ont plus de 25 ans comparativement aux trois quarts qui en ont moins de 25 dans les niveaux baccalauréat. Donc, c'est un exemple là, de type de profil qui est très différent en formation continue.
Il y avait un point également qu'on avait retenu, c'est qu'il y avait une certaine concurrence entre établissements aussi qui pouvait faire peut-être certains obstacles. En quoi ça peut nuire peut-être à l'épanouissement de la formation continue?
Oui, la formation continue dans les cégeps et les universités, elle est souvent développée en fonction, je dirais, beaucoup en fonction des besoins du marché du travail. Donc ça, c'est une première raison. Puis le financement des programmes de formation continue se fait différemment, c'est-à-dire que en général, les programmes de formation continue doivent être autofinancés, ce qui fait que les gens qui les suivent puis les frais d'inscription doivent couvrir la totalité du développement des programmes, ce qui est assez différent du mode de financement des programmes réguliers au cégep et à l'université. Donc ça fait que évidemment les établissements collégiaux, par exemple, sont un peu en concurrence les uns avec les autres pour attirer la clientèle puis répondre à des besoins spécifiques. Donc ça fait que les données sont pas collégées de la même façon, puis il y a une moins grande peut-être coordination entre les établissements pour ce qui est de la formation continue, puisque ça se fait un peu en vase clos, puis ça se fait aussi en parallèle des formations régulières dans chacune des universités. Donc, ça crée toutes sortes de défis dans les ressources humaines, par exemple, qui vont faire les programmes en formation continue versus les enseignants, par exemple, qui sont en formation continue versus dans les programmes réguliers. Donc, il y a beaucoup plus de précarité du côté de la formation continue, moins de permanence, évidemment. Donc, ça a un impact aussi sur les types de programmes.
En terminant, que diriez-vous aux auditeurs qui voudraient en savoir plus sur la formation continue ou qui voudraient s'y engager peut-être?
Oui, je pense que notre dossier est un bon point de départ pour voir l'étendue de ce qui est disponible en formation continue en enseignement supérieur. Puis je pense que j'inviterais plus particulièrement les gens qui travaillent peut-être soit en formation continue ou en enseignement supérieur en général. On a toute une section de notre dossier qui présente les facteurs de réussite en formation continue. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut adapter les différents programmes, les différentes offres de formation continue au Québec pour faciliter la réussite des étudiants et des étudiantes. Donc je les renverrai vers cette section-là de notre dossier pour en apprendre davantage, puis comme ça, être mieux préparé.
Donc, tous les détails grâce à l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l'ORES. Julie Gagné, directrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci pour votre temps d'antenne. Bonne fin de journée.